Europe 1. Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin.
Bonjour et bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine qui va nous permettre, comme chaque jour, de faire ensemble pendant une heure le tour de l'actualité, forme, bien-être, développement personnel et mieux vivre. Et si aujourd'hui, tout simplement, on apprenait à vivre heureux plutôt qu'anxieux, à créer de la quiétude plutôt que de l'inquiétude, bref, si on apprenait à mieux gérer notre stress. Et la sophrologie peut nous aider, c'est un outil de gestion des émotions et des difficultés au quotidien. Alors pour en savoir plus sur la sophrologie, deux invités, Carole Serra, sophrologue, spécialiste du stress. La vie moderne, selon elle, fabrique de plus en plus de stressés qui viennent de plus en plus la consulter. Et à ses côtés, Laurent Stopnicki, musicien, c'est lui qui compose les musiques relaxantes, on va en écouter certaines, qui accompagnent les séances de sophrologie. Et puis bien sûr, on terminera l'émission avec Anne Cazobon. Il est vendredi, Anne, c'est place à l'amour.
Mais oui, on vous parle d'amour, on vous parle de nouvelles rencontres, celles qui sont en route vers nous et comment faire un pas vers elles.
N'hésitez pas à nous suivre sur europe1.fr en direct ou encore en podcast. Bien sûr, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag LVDS ou encore sur Facebook. La vie devant soi du vendredi, celle qui est juste avant le week-end. C'est parti.
La vie devant soi sur Europe 1.
Mais comme tous les après-midi, on va commencer par le à la une avec cette loi américaine qui prévoit désormais dans tous les lieux publics l'installation d'une table allongée pour bébés, donc dans les toilettes hommes. Alors généralement réservée aux toilettes femmes, la table allongée bébé va passer de l'autre côté, ce qui, Elisabeth Assayag, ravit complètement les papas américains.
Oui, c'est l'idée du maire de New York, Bill de Blasio, qui a promulgué cette semaine un texte qui indique qu'il devra y avoir des tables allongées dans toutes les toilettes pour hommes dans les établissements publics de la ville, c'est-à-dire dans les musées, dans les parcs, les bibliothèques, les monuments. Le maire a déclaré, je cite, que trop souvent les pères sont exclus des commodités destinées aux familles. Cette loi vise en filigrane les couples gays dont les pères ne peuvent actuellement pas changer leurs enfants dans ces établissements publics. Or, ben justement, il faut que ça change.
Et en France, c'est pas du tout le cas. C'est pas d'actualité.
Effectivement, non. Ce n'est pas d'actualité. J'ai d'ailleurs eu le président de SOS Papa, cette association qui lutte justement pour les droits des papas, qui disait c'est très bien, mais on est encore très loin de ces détails en France. Et il a raison. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a des tables allongées dans la plupart des toilettes pour femmes dans les bâtiments publics. En revanche, pas grand chose pour les hommes. Aux États-Unis, comme en France, nous en sommes encore loin. Pourtant, cette mesure n'est que le reflet de notre société, nous décrypte la psychologue pour enfants et adolescents Béatrice Copper-Royer.
C'est surtout le reflet d'une réalité quand même. Je trouve que les pères aujourd'hui investissent leur paternité de façon très concrète. Et donc je trouve que c'est tout à fait le reflet d'une génération de pères qui ne se cantonnent pas à être juste un tiers séparateur de la mère et juste là pour faire la loi. Et je trouve que c'est une évolution qui est extrêmement favorable. Les enfants y trouvent beaucoup d'épanouissement. Et les hommes aussi du reste. Hein. Ils ont la possibilité d'exprimer toute une part de tendresse qui était probablement bien refoulée. Ça serait bien aussi que ça arrive en France et que les tables allongées ne soient pas uniquement du côté des femmes.
Oui, à noter, hein, l'aéroport de Roissy et Orly font figure d'exception avec son espace de change qui sont dans des endroits neutres, ni pour hommes ni pour femmes, pour tout le monde.
Est-ce que c'est pas quand même une mesure un peu gadget, un peu paillette, un peu marketing ?
Alors, aux États-Unis, c'est très bien perçu parce que là-bas, c'est une réalité. Ils sont en avance sur les préoccupations des familles, qu'elles soient homosexuelles, hétérosexuelles, homoparentales. D'ailleurs, les études le montrent, hein, c'est bénéfique pour l'épanouissement et le développement psychique du bébé, d'avoir le père qui s'investit autant que la maman. Mais il ne faut pas non plus aller trop loin. Ce sont les mots de la psychologue Béatrice Copper-Royer. Attention, les papas ne sont pas non plus des mamans. Il faut trouver le bon dosage.
Que peut y avoir un basculement comme ça de ces pères qui sont dans une formidable jouissance de ce soin tendre aux enfants et qui du coup transforment les mères en celles qui sont obligées de poser des limites et signifier les règles. Ça serait dommage. Je pense que les places de chacun ont un sens. Elles ne sont pas forcément toujours interchangeables. Mais c'est bien aussi que l'enfant soit face à une autorité paternelle qui est différente de celle de sa mère. C'est très frais dans ma tête parce que j'avais un couple ce matin, c'était exactement la problématique. Qu'il ne soit pas uniquement un papa copain, joueur, tendre, qui fait des câlins et elles attendent aussi qu'il les soutiennent quand il y a un peu de fermeté à mettre en place.
C'est loin d'être anecdotique, hein, cette histoire de table allongée, parce que si on y réfléchit bien, c'est quand même très pratique quand les papas peuvent prendre le relais, et ça n'importe où, dans n'importe quel endroit.
Mais c'est vrai qu'en France, et comme vous le dites, on est un peu en retard, et qu'avant la table allongée pour tous, moi je trouve que ce serait sympa de réfléchir à d'autres problématiques.
Comme
Le congé paternité pour hommes, pour l'instant c'est 14 jours, et encore, il nous compte le samedi et le dimanche dedans, donc c'est de toutes petites semaines. On pourrait peut-être, comme dans des pays nordiques là, faire pour les papas, pour les jeunes papas, beaucoup plus. Merci Elisabeth, on va vous retrouver lundi pour une nouvelle édition du À la Une. Dans quelques instants, on va se retrouver pour parler d'une nouvelle façon de gérer notre stress. Le stress, c'est quotidien, ça concerne tout le monde et à l'arrivée, ça nous pourrit bien la vie.
La vie devant soi sur Europe 1. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Vous ne vous sentez pas déjà mieux. Vous imaginez que vous êtes tranquille avec Carole Sera face à vous et qu'elle est en train de vous parler comme ça, tout doucement, pour soulager un petit peu la pression qui est la vôtre en cette fin de semaine, afin d'attaquer le week-end dans les meilleures conditions possibles. Avec vous, Carole, d'abord je vous dis bonjour.
Bonjour Isabelle.
On est également avec Laurence Stopnicki, c'est votre mélodie, c'est votre musique. Bonjour Laurent.
Merci, bonjour Isabelle.
C'est doux. Parce que déjà, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. On pense souvent à dire, ça va être une musique d'ambiance, mais peut-être que il n'y aura pas la mélodie, il n'y aura pas la vraie musique. Alors là, on entend quand même une musique qui nous fait du bien parce qu'elle nous pacifie, elle nous apaise. Alors Carole, cette musique, celle de Laurent, est ce qui vous accompagne souvent pendant vos cours de sophrologie. Première question, la sophrologie, ça s'adresse à qui et surtout, à quoi ça sert ?
C'est une bonne question. Bien, la sophrologie, d'une manière étymologique, c'est la science de la conscience. C'est prendre conscience de son corps, de ses tensions. Donc ça s'adresse à tous les gens stressés et non stressés, d'ailleurs, tous ceux qui veulent être mieux dans leur corps, mais aussi dans leur esprit, dans leur mental. Et c'est une technique qui est originale, qui a été créée par un neurologue, un grand professeur, le professeur Caicedo. Une technique que j'applique en maternité avec les mamans, avec les enfants, que j'applique aussi pour les gens vraiment qui ont des problèmes de sommeil, mais aussi des problèmes un peu plus profonds comme le burn-out, etc., etc.
C'est un peu un cercle vicieux, hein, parce que quand on est stressé, bien sûr, on a du mal à s'endormir, on a du mal à avoir une bonne qualité de sommeil, ce qui fait que dès qu'on se lève le matin, on est déjà fatigué, on ne peut pas tout supporter, donc là aussi on est encore plus stressé. Et en fait, vous m'expliquez que dans vos consultations, vous avez de plus en plus de gens qui viennent vous voir parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont stressés par leur boulot. Il y a deux formes de stress.
Tout à fait, Isabelle. Il y a le stress externe. Alors, c'est le bruit, la pollution, les terribles événements. Ça, on peut pas vraiment agir sur ça. Mais il y a un stress un peu plus pernicieux que j'appelle dans mon livre le self-stress. C'est le stress affreux qu'on se fabrique. C'est dès le matin, on se lève et on se dit « Oh là là, ah, c'est sûr, je vais pas y arriver. Mon permis tout à l'heure, je vais le rater, c'est sûr. Mon examen, non. » Voilà, c'est cet esprit répétitif et négatif, ces ruminations qui font que, bien entendu, le soir, on n'y arrive pas. On n'en peut plus quand on rentre du boulot. On n'arrive même pas à trouver le sommeil. Voilà, c'est un cercle vicieux, comme vous dites. Donc c'est très important d'apprendre à gérer ce self-stress et à vraiment être en confiance, en harmonie avec soi-même, avec son corps et avec son mental. Car la sophrologie, c'est ça qui est super, c'est une méthode entière. C'est relâcher le corps, mais aussi les pensées. Car le stress vient aussi souvent du cerveau et de tout ce qu'on se raconte.
Tout ce qu'on rumine, vous avez utilisé le mot ruminer, c'est sûr. Hein. On n'arrête pas d'auto-alimenter notre stress avec des pensées négatives qui viennent, qui sont là, qui stagnent, et puis qui font des petits, et puis qui nous submergent.
Tout à fait. Et la sophrologie va vous aider à ne plus être submergé, justement, et à gérer vraiment vos émotions. Car des fois, les émotions, elles nous étouffent, en fait, c'est ça. Et on ressent un serrement, c'est ça le mot stress, c'est on se sent comme serré, étriqué, on est prisonnier de quelque chose qui est plus fort que nous. Or, maintenant, on sait qu'on peut y arriver. Tout le monde, vraiment, tous ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de fatalité avec le stress. Il suffit d'en être déjà conscient, d'avoir les bons exercices très simples que je vous dirai tout à l'heure, et on peut vraiment arriver tous à déstresser. Quand on sait les effets négatifs que le stress provoque sur la santé, hein, moi les médecins sont mes meilleurs prescripteurs, et on sait que ça atteint des fois des choses assez affreuses, donc il faut pas en arriver là. Et moi je suis toujours très positive, et je pense que tout le monde peut arriver vraiment à se détendre, à déstresser.
Alors ce qui est très bien, c'est que dans cette émission, avant 16h, vous allez nous donner tous les exercices que l'on peut faire, que l'on soit chez soi, que l'on soit dans son bureau, en ce moment assis devant son ordi, que l'on soit également dans sa voiture, ou que l'on soit au moment du sommeil, le soir, on est là, tourne et retourne, on voudrait dormir parce qu'on en a besoin, sauf que le stress fait qu'on a du mal à s'endormir. Extrait de votre livre, cette phrase, la détente, c'est comme le sommeil, plus on veut dormir, moins on y parvient. Parce qu'effectivement, plus on dit « je veux me détendre, je veux me détendre, je veux me détendre », on arrive à l'effet inverse, on se crispe.
Exactement Isabelle, et c'est là que la sophrologie va vraiment vous aider, elle va vous aider à lâcher prise. Voilà, laissez-vous aller, respirez, visualisez, rêvez. Faites travailler un peu votre cerveau droit, le cerveau de l'imagination, du laisser-aller.
Vous dites aussi qu'il faut en finir avec la culpabilité, parce que vous rencontrez souvent cette phrase de gens qui ont besoin qu'on les aide à soulager un peu cette pression qu'ils ont, un peu cette chape sur les épaules. Et vous dites souvent, ils disent « oui mais moi j'ai honte parce que c'est quand même du temps et de l'argent que je ne dépense que pour moi, alors qu'on pourrait faire des choses en famille, c'est mal de ne penser qu'à moi au lieu de penser aux autres ».
Mais c'est pas mal du tout, c'est même essentiel dans notre monde si stressé, si pressurisé. C'est très important de penser à soi, d'être bien avec soi-même. C'est beaucoup de bonheur pour les autres. Quand vous êtes une maman, vous êtes tendue et stressée, les enfants le sentent. Donc c'est très important qu'une maman arrive à se détendre pour le plus grand bonheur de ses enfants. Quand vous êtes en couple, c'est important d'être bien avec vous-même déjà. Sinon vous allez faire, sinon le soir ça va être des disputes avec votre conjoint, vous allez lui faire des reproches, des regrets. J'appelle ça les mauvais airs, les regrets, les remords, les ressentiments. Non, il faut arriver vraiment à prendre soin de soi. Ça devient maintenant une réelle nécessité.
Alors on va prendre soin de nous cet après-midi, on va le faire en musique, en écoutant les thèmes musicaux qui ont été composés par Laurent Stopnicki. On va parler également de la respiration. C'est un constat que vous faites, on ne sait pas bien respirer, on ne respire qu'avec le haut du corps, on passe quasiment toute la journée en apnée. Bien respirer, c'est un atout, et avec vous, on va voir que ça s'apprend. Fabienne Thibault, et on est avec Toujours tout seul au monde. Eh bien non, parce qu'aujourd'hui on a peut-être une solution pour justement supporter mieux le stress. On en parle avec Carole Serra, sophrologue, spécialiste du stress. On en parle également avec Laurent Stopnicki. C'est quoi l'importance, c'est quoi la place de la musique dans la thérapie? Qu'est-ce que ça
Alors,
nous fait?
Nous, on travaille beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'impact émotionnel des sons et du stress. Donc la musique, elle peut amplifier cet effet de relaxation, et surtout la musique, elle est accessible à tout le monde, aux enfants, aux adultes, à ceux qui souffrent, à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut ressentir la musique, on ressent la musique avec le cœur, avec l'âme, et elle ne s'adresse pas à l'intellect. C'est pour ça qu'elle est facilement accessible. Et moi, je travaille beaucoup, je cherche toujours, comme un peintre, les différentes palettes de couleurs, les différentes textures qui vont aider justement à trouver ce climat. Et vous avez parlé tout à l'heure de mélodie, et la mélodie, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai remarqué qu'en visitant des gens qui ont Alzheimer, que les gens qui ont Alzheimer, ils sont très sensibles à la musique et ils sont encore capables de chanter. Et non seulement de chanter, et ça c'est absolument hallucinant, mais capables d'apprendre de nouvelles mélodies. Donc l'importance de la musique, elle est là. C'est qu'elle touche le cœur des gens. Et donc on amplifie cet effet apaisant, ce cocon, on l'amplifie grâce à la musique et la voix. C'est un travail que l'on fait depuis des années maintenant.
Musique plus voix, voilà, plus suivre Carole, c'est ce que l'on va faire. Parce que j'aimerais vraiment, on a fait un petit peu le tour ce matin dans l'open space, et on s'est tous rendu compte qu'on ne respirait pas bien. On avait une sorte de demi-respiration, et forcément, ça ne nous suffit pas une demi-respiration. Qu'est-ce que vous nous proposez?
Très souvent, on respire avec le haut du corps. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on bloque la zone du diaphragme, hein, c'est le muscle respiratoire le plus important, et donc quand on bloque l'air, on étouffe. Donc il est très important de respirer par le ventre. Ça s'apprend. Je l'apprends aux femmes enceintes, mais je l'apprends à tout le monde. Alors on peut faire un exercice très simple et rapide.
On met de la musique.
Voilà.
On est en situation Dreaming Light, toujours signé par Laurent. Carole.
Alors, où que vous vous trouviez, vous avez tous la capacité de vous extraire mentalement du monde extérieur et de respirer. Que ce soit au bureau, dans les transports, dans un lieu public, il vous est indispensable d'apprendre à respirer. Alors, je vous propose l'exercice de la paille. C'est très simple. Vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre comme un ballon. Et longuement expirer par la bouche, comme si vous aviez une paille dans la bouche, en rallongeant le souffle à travers la paille. Voilà, vous inspirez sur 3 secondes et vous expirez sur 6 secondes. On reprend, on inspire, on gonfle le ventre. On se remplit de calme, de bien-être, d'équilibre. Et on expire longuement par la bouche en éliminant le stress, les tensions, les appréhensions. Voilà, n'oubliez pas, plus longue est votre expiration par la bouche et meilleure sera votre détente. Et après cette respiration, vous pouvez simplement vous imaginer que vous êtes dans une bulle. Une bulle protectrice, une bulle translucide, à l'intérieur de laquelle vous trouvez un espace de bien-être et de sécurité. Et dans cette bulle, vous êtes à l'abri, comme dans un cocon, rien ni personne ne vient vous déranger. Et vous ne laissez pas le stress environnant vous atteindre. Votre respiration est toujours calme et régulière. Votre expiration est profonde. Et à l'intérieur de cette bulle protectrice, la température est idéale. Afin d'imprimer, d'enregistrer cette bulle protectrice, vous allez faire une douce tension des muscles du corps. C'est très simple, vous inspirez, vous serrez les poings, les mâchoires, les fessiers, vous enregistrez l'image de cette bulle. 1, 2, 3, essoufflez. Quand vous le souhaitez, quand vous en aurez besoin, il vous suffira de ressortir cette image mentale pour retrouver ce cocon protecteur.
Vous nous embarquez avec votre voix. On est tous sous le charme. Il y a quand même deux questions que je voudrais vous poser. Pourquoi l'expiration fait le double de l'inspiration? Pourquoi est-ce que c'est cette expiration poussée, appuyée, qui nous détend? Pourquoi c'est pas en respirant?
Alors ça, c'est très sophrologique. Et Alfonso Caicedo, le neurologue, nous disait toujours que c'est très important d'expirer. C'est dans l'expiration qu'on élimine le négatif, les tensions. Voilà, on inspire le positif et on rejette, on expulse le négatif. Il ne faut pas garder le stress en soi, c'est très mauvais, ça étouffe. Ça crée de la colère, ça crée des ulcères. Il faut l'éliminer hors de soi. Alors il y a beaucoup d'exercices de sophrodynamique que font d'ailleurs les sportifs de haut niveau. C'est une technique très validée par les sportifs de haut niveau, que ce soit les tennismen, les footballeurs. Voilà, donc c'est très important cette expulsion du stress.
Deuxième question, lorsque vous nous emmenez comme ça dans votre bulle, qui devient notre bulle à nous d'ailleurs, vous fermez les yeux. Rideau.
Tout à fait, on se coupe du monde extérieur. Car ce qui est important, en fait, c'est notre monde intérieur. Notre bonheur vient souvent de l'intérieur, c'est notre âme. Et très souvent, on est distrait par le monde extérieur, c'est très bien. Mais pour un temps de repos, de récupération, il est important de fermer les yeux. Ça détend le cerveau, les pensées. On y voit plus clair en réouvrant les yeux.
On va se retrouver dans un instant, puisque après ce premier exercice, exercice de la paille, il y a d'autres exercices. Il y en a un qui me semble particulièrement intéressant parce que c'est celui qui nous aiderait à nous endormir le soir beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que le soir, c'est compliqué. Même si quand on dort, on a un bon sommeil, l'endormissement nous pose problème. En sophrologie, il y a peut-être des solutions.
La vie devant soi sur Europe 1. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et on parle de stress cet après-midi avec la sophrologie qui peut nous aider à mieux cohabiter avec notre ou nos stress. Ma sophrologie anti-stress, écrite par Carole Serra, qui est avec nous cet après-midi et qui est accompagnée d'un CD coécrit et composé par Laurent Stopnicki, qui est également avec nous. On a écouté pour partie des petits bouts d'exercices et donc de musique. J'aimerais bien qu'on revienne sur la respiration, parce qu'en vous lisant, Carole, j'ai appris qu'il y avait 7 respirations différentes, de l'abdominal à la respiration de la lune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ?
Bien sûr. Alors, la plus importante pour moi, c'est vraiment la respiration abdominale. On inspire sur 3 temps, on expire sur 6 temps. Pourquoi elle est importante, celle-là ? Parce que lorsqu'on inspire et expire par le ventre, on ouvre la zone des émotions, on ouvre le diaphragme et on ne s'étouffe pas. Voilà, on a assez d'air et ça, c'est très important. La respiration thoracique, elle est aussi excellente. C'est vraiment l'ouverture des côtes. Elle permet vraiment l'élasticité des poumons. Elle permet d'absorber plus d'oxygène. Alors, je donne une respiration dans le livre qui est l'ouverture de la fenêtre. Elle veut bien dire ce que ça veut dire. On inspire, on lève les bras et on fait comme si on fait le geste d'ouvrir une fenêtre et on écarte bien les côtes. Hein, c'est très important pour les gens qui sont anxieux, angoissés, qui ont leur diaphragme bloqué, serré. Pour les asthmatiques également, qui manquent d'air, c'est très important d'ouvrir.
On se déplie, comme
exactement.
Si on dépliait nos poumons.
Exactement. Alors la respiration positive, ça c'est très sophrologique. On inspire sur 3 temps un mot négatif, je suis bien. Ce matin, je me réveille en pleine forme.
Ça, c'est positif.
C'est très important, comme disait Caicedo, d'inspirer le positif de la vie. Le matin, on se réveille, ça nous paraît normal. Mais non, quand on se réveille le matin, c'est déjà un miracle. On est resté plusieurs heures, le corps endormi. Et là, on se réveille à la vie. C'est très important d'être positif dès le matin.
La respiration express,
je l'ai faite tout à l'heure, c'est la paille. Hein, c'est vraiment, on inspire et sur l'expire, vraiment prolongé, comme si on avait une paille dans la bouche, on souffle et on expulse le stress, les tensions. Alors la respiration de la lune, elle est très efficace pour calmer vraiment l'agitation mentale responsable des difficultés d'endormissement, ces ruminations, des « oh là là, aujourd'hui j'ai été nulle, je ne suis pas arrivée ». Non, il faut tout de suite arrêter, mettre en place cette respiration qui est une respiration nasale en fait. Alors, on inspire, on bouche la narine droite et on souffle avec la narine gauche. Puis on fait la même chose de l'autre côté. On bouche la narine gauche et on inspire et on expire avec la narine droite. Voilà, il y a toute une circulation nasale qui se fait. C'est très important, cette circulation nasale. Ça va vraiment au cerveau, ça crée une libération aussi de l'énergie et des pensées. Et ça favorise le lâcher prise et l'endormissement.
C'est celle-là qu'il faut prendre avant de s'endormir. C'est cette respiration que l'on peut faire quand on ne trouve pas le sommeil.
Exactement. Et même en cas de réveil sonore, de réveil nocturne, c'est très important aussi de mettre en place tout de suite cette respiration de la lune. Voilà, pour calmer les ruminations, les pensées. Pour mettre en place ce lâcher prise. Car c'est bien ça, le stress, c'est vraiment le pire ennemi du sommeil. Il faut vraiment apprendre à le...
Il m'en reste 2 respirations. La respiration psalmodie, pranayama.
Oui, alors ça, c'est issu du yoga. Alors, il y a différentes formes de pranayama. En général, on aime beaucoup expirer en prononçant le mot « om ». C'est on inspire. Et sur l'expire, le « om ». Et on observe vraiment une vibration de tout le corps. Et c'est très intéressant, très bénéfique pour la santé physique et mentale.
Et puis, la dernière que vous nous conseillez, c'est... Alors, je trouve ça très joli, mais j'ai un petit peu de mal à voir comment ça fonctionne. Respirer un mot agréable. À moins que ce soit de faire un petit peu, c'est un peu comme la respiration positive.
Exactement, sauf que là c'est sur l'expire, donc on inspire. Et en expirant, on dit un mot agréable, je suis bien. Je suis vraiment heureuse d'être avec Isabelle Quenin aujourd'hui.
C'est très gentil, moi aussi, ça je vous assure. Mais alors, juste une question, est-ce que ces techniques de respiration, qu'il faut répéter plusieurs fois, est-ce qu'on peut par exemple les utiliser quand on conduit ? Vous voyez la scène, vous êtes au volant, jusque-là tout va bien, sauf qu'il y a un crétin qui vous double en vous faisant une queue de poisson, vous avez juste envie de lui hurler dessus. Est-ce que respirer peut servir à me faire retomber en température ?
Tout à fait. Respirer, ça va vous servir tout de suite à dire stop, Non, je ne vais pas hurler, stop. Comme une lumière rouge qui va s'allumer devant vous. Ça doit être un geste réflexe. Vous êtes en voiture, il y a des embouteillages, tout le monde hurle. Vous dites stop, allumez la lumière rouge devant vous. Prenez votre volant, inspirez. Faites un mouvement de tension, détente. Serrez bien le volant, serrez les muscles des cuisses, des mains. Serrez les mâchoires. 1, 2, 3. Relâchez, soufflez bien. Et bien voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Et pourtant, je suis toujours dans les embouteillages.
Quand on pratique, quand on commence la sophrologie, est-ce que c'est la prime à la régularité, à la patience et à la fidélité? C'est-à-dire que où est-ce qu'à un moment donné, on va être suffisamment fort pour devenir notre propre sophrologue?
Tout à fait, Isabelle. D'abord, il faut être initié, faire quelques séances. La sophrologue va vous apprendre les techniques essentielles de respiration, de relâchement musculaire, de visualisation. Ensuite, à chaque séance, elle va vous faire une cassette. Elle va vous enregistrer la séance. Vous allez la répéter à la maison. Et petit à petit, vous allez vraiment ressentir un grand bien-être. Et à partir de là, vous allez devenir votre propre coach. Et vous allez pouvoir coacher les autres.
Un petit exercice. On va écouter une autre composition de Laurence Stopnicki, Havre de paix. Et sur cette musique-là, qu'est-ce que l'on peut faire cet après-midi qui va nous aider à... comme vous dites, soulager la pression.
On peut arriver à, le soir à trouver le sommeil. Alors on commence toujours, quand on est dans son lit, par une bonne respiration. Voilà, vous êtes, imaginez-vous ce soir, dans votre lit, vous commencez par inspirer par le nez et expirer longuement par la bouche, en éliminant le stress, les tensions de la journée. Voilà, vous êtes dans votre chambre tranquille, vous avez éteint vos tablettes, votre ordinateur. Vous pouvez mettre une musique en fond sonore. Et vous relâchez bien tous les muscles du corps, du haut du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Très rapidement, vous relâchez le front, les yeux. Vous entrouvrez les lèvres, desserrez les dents, décrispez les mâchoires. Voilà, laissez aller les bras, les épaules. Sentez votre dos s'enfoncer en toute sécurité sur le matelas. Détendez le ventre, les jambes, voilà. À présent, vous pénétrez dans un niveau de conscience très agréable. Le niveau de la sophrologie au bord du sommeil, au bord du réveil. Et pour trouver facilement un sommeil réparateur, je vous propose d'imaginer un paysage de vacances. Une plage de sable fin, par exemple. Ou un jardin, un endroit que vous aimez, qui vous procure bien-être et sérénité. Autour de vous, imaginez la nature, une nature apaisante, sécurisante. Et vous développez tous vos sens dans votre havre de paix. Écoutez, captez au loin le chant des oiseaux ou le murmure de l'eau qui coule lentement. Respirez calmement les délicieux parfums qui vous entourent. À présent, là où vous êtes, imaginez un doux rayon de soleil qui se pose sur vous et réchauffe tout votre corps. Chaleur agréable sur les deux épaules. Votre bras droit est chaud et lourd. Votre bras gauche est chaud, lourd. Douce chaleur le long de votre dos. Chaleur autour du ventre, du bas-ventre. Douce chaleur le long des jambes. Et laissez-vous plonger dans les bras de Morphée. Dans votre havre de paix, où rien ni personne ne vient vous déranger. Et je suis certaine que vous passerez une excellente nuit. Pensez-y ce soir.
C'est extraordinaire parce que nous, on vous regarde faire et on voit que sur votre visage, vous vivez complètement les paroles que vous prononcez. On va se retrouver dans un instant parce qu'on va parler justement de ce pouvoir d'évocation et de persuasion lorsque vous terminez en disant « et je suis certaine que vous passerez une excellente nuit ». Ça veut dire que si on s'endort en disant « je vais bien dormir », eh ben on a toutes les chances que ça arrive.
La vie devant soi sur Europe 1.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Ma sophrologie anti-stress est le titre du livre de Carole Serra qui vient de paraître aux éditions C'est Malin Grand Format avec Laurent Stopnicki qui lui signe le CD qui accompagne ce livre. Alors dans votre livre, il y a quand même une pépite aussi, c'est ce que vous appelez le réflexe Chirac. Chirac pour Jacques Chirac. Et en fait, vous dites que quand vous le voyez, on va parler au passé puisqu'il apparaît un petit peu moins, mais quand vous le voyez lors de ses interventions à la télé, vous étiez capable, grâce à l'identification d'un petit geste réflexe qu'il a, de voir s'il était stressé ou pas. Avoir un petit geste réflexe, différent pour chacun d'entre nous, nous permet de gérer le stress. Comment ça se passe ?
Mais tout à fait, Isabelle. Et c'est très intéressant parce qu'à l'instant T, avant un entretien, un examen, on peut faire le geste de Jacques Chirac. Il faisait un rond. En fait, il positionnait son index sur le pouce et ça donnait un rond. Et en discours, lorsqu'il perdait pied, qu'il était stressé, il bafouillait. Soudainement, il lui suffisait de refaire ce geste pour retrouver son calme. Sa voix était beaucoup plus posée, il était souriant. Alors c'est formidable et il y a plein de petits gestes réflexes qu'on peut faire comme ça au cours de la journée pour vraiment se détendre instantanément. Et retrouver les paysages, retrouver toutes les séances faites avec son sophrologue, simplement résumé en une seconde. Hop, je ressors mon geste et je suis cool, bien. Nos problèmes.
Par exemple, on parle souvent de se pincer l'extrémité des doigts fort pour juste associer à des pensées positives et donc se remettre dans les clous, en fait.
Exactement. Chaque personne choisit son geste. Jacques Chirac choisissait ce geste du rond, mais vous pouvez choisir voilà, de pincer vos doigts, de vous toucher la tête, vous toucher le ventre, simplement de sourire. C'est quelque chose qui active votre cerveau, qui est une mémoire sensorielle qui dit à votre cerveau stop, ne stresse pas, tout va bien. Et ça, c'est très important pour nous tous, à tout moment de la journée.
On a écouté, Laurent, toutes vos compositions, enfin toutes, pardon, trois des compositions qui sont sur le CD. Et c'est l'alchimie, l'équilibre entre votre musique et la voix de Carole. Et c'est extraordinaire parce que c'est vrai que ça nous ramène, cette voix nous ramène à la voix douce qu'on entend quand on est dans le ventre de notre maman, où on ne voit pas, on ne parle pas bien sûr, on ne sent rien non plus. On a juste ce lien, c'est juste par l'oreille, juste par l'audition avec cette voix.
Exactement. Et moi, j'ai été très influencé dans mon travail justement par ce que j'appelle l'écoute amniotique. C'est-à-dire qu'on retrouve la sensation qu'on avait avec la voix de Carole et ma musique quand on était dans ce cocon protecteur. Et c'est ce qu'il y a de plus apaisant et c'est ce qui crée cet effet apaisant que vous entendez avec la voix de Carole et la musique. Il y a une sorte de réminiscence d'un cocon protecteur.
Vous accompagnez avec cette musique et vos paroles, Carole, vous allez, pendant les accouchements, vous êtes même présente en salle de travail. Est-ce que vous arrivez à apaiser les mamans qui sont dans une période un peu critique, un moment critique quand même?
Bien sûr, la musique de Laurent est vraiment extraordinaire. Elle agit sur le fœtus, sur la maman. Le bébé, lorsqu'il naît sur cette musique, il y a un bien-être, un sourire qui s'installe dès la sortie du ventre de sa mère. C'est absolument fabuleux. Et comme il y a une mémoire auditive, ce fameux bébé que j'ai coaché in utero pendant plusieurs mois, je le revois lorsqu'il a 3-4 mois. Il arrive à la maison avec sa maman, il peut être fatigué, il pleure. Je lui remets la même musique, je lui dis « Bonjour bébé ». Il se souvient, il s'arrête net de pleurer. Et ça, c'est un grand bonheur, Isabelle.
La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1.
Et on retrouve une dernière fois Carole Serra, sophrologue, et Laurent Stopnicki, ma sophrologie anti-stress. Tout ce que vous nous avez fait faire comme exercice cet après-midi, vous venez de le faire. La semaine dernière, vous étiez au Carnegie Hall en public et vous avez réussi à apaiser une salle entière en fait. Ça se passe comment quand on fait cet exercice-là? Parce que quand on est dans une salle de spectacle, en plus Carnegie Hall, bah forcément il y en a qui toussent, il y en a qui grattent des papiers, il y en a qui... Enfin, personne n'est suffisamment concentré, en tous les cas pas 4000 personnes au même moment.
Avec nous, tout le monde est concentré, on n'entend pas une mouche qui vole et c'est extraordinaire cette vibration qui nous unit les uns aux autres. À ce moment-là, quand 3 ou 4000 personnes respirent au même moment, méditent au même moment, je peux vous assurer qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui nous unit justement les uns contre entre les autres, les uns avec les autres, comme la chanson de Michel Berger à qui on rend hommage.
La musique de Laurent est assez extraordinaire. Elle enveloppe le public, que ce soit 3000 ou 6000 personnes.
Mais est-ce que vous arrivez-vous à vous détacher de la pression qu'on a d'être sur scène devant 6000 personnes?
Écoutez, moi, plus il y a de monde, plus je suis heureuse. La scène, c'est vraiment mon truc, puisque à la base, je suis artiste, chanteuse. Et pour moi, être devant un public, c'est absolument magnifique. C'est comme être en émission de radio, c'est faire passer le message avec ma voix, la musique de Laurent. Donc, c'est un grand bonheur pour moi que d'être sur scène.
Question que se posent sûrement tous ceux qui nous écoutent cet après-midi. Comment on sait qu'on a un bon sophrologue? Comment je trouve un bon sophrologue?
Alors, c'est une bonne question et très importante. Un bon sophrologue doit avoir un diplôme. Et le diplôme ultime qui permet de recevoir, c'est la sophrologie caïcédienne. Vraiment, c'est issu de Caïcédo. Il faut avoir un master en sophrologie caïcédienne. On ne s'improvise pas sophrologue. Hein. Il y a des gens qui se disent sophrologue au bout de 2-3 week-ends. Voilà, faut faire attention. Donc, demandez bien le diplôme. Pour plus d'informations, vous pouvez joindre aussi l'Académie internationale de sophrologie, la SOFROCAI. Qui sont des gens très compétents, qui vous donneront les adresses des bons sophrologues dans toute la France. Car maintenant, la sophrologie est très développée. Et elle pénètre les hôpitaux.
Combien coûte une séance? À titre indicatif, donnez-moi une fourchette.
Hein, oui, à titre indicatif, entre 60 et 80 euros.
Et c'est remboursé? Alors pas par la Sécu.
Alors mais pas par la Sécu,
hélas. Par certaines mutuelles?
Oui, de plus en plus. Il y a certaines mutuelles qui prennent en charge les séances de sophrologie. Certaines maternités également. Et heureusement, parce que vraiment, c'est une activité entière, complète, avec une approche holistique qui peut vraiment aider un grand, grand nombre d'entre vous, ceux qui nous écoutez. Vraiment, c'est très simple, c'est une méthode 100% naturelle et qui provoque un grand bien-être. Et puis on la pratique, plus ça devient un rituel de vie.
Comment vous êtes entrée en sophrologie, vous? Parce qu'on a l'impression qu'on rentre en sophrologie, qu'on commence et puis
eh bien,
si ça nous correspond,
Isabelle,
on continue.
C'est une très bonne question.
J'ai qu'une minute à vous donner.
Après un très grand stress. Parce qu'on a connu un très grand stress.
Voilà, en fait, j'ai été speakerine, je suis la dernière speakerine de TF1. Et dans la même semaine, les speakerines se sont arrêtées. Bon, c'est vrai que j'étais très triste, mais avec Laurent, on a eu un incendie dans notre appartement où en pleine nuit, on a failli mourir, on a tout perdu, on a vu le feu. Arrivé en pleine nuit à 4h du matin. Là, je peux vous dire que le stress, il était immense. On a mis des jours et des jours à se remettre de ce stress horrible. Et on m'a conseillé cette technique pour apprendre à évacuer ce traumatisme, ce stress. Et puis après, j'ai fait carrière au Japon, le pays du soleil levant, du zen, des arts martiaux. Et Laurent, en entendant ma voix, m'a dit « Il faut maintenant qu'on crée un mélange entre ta voix et la musique. » Et on a créé notre propre sophrologie.
Ce que l'on peut retrouver donc dans votre livre, collection C'est Malin, édition Le Duc, Carole Serra et Laurent Stopnicki, ma sophrologie anti-stress. Merci à tous les deux et je vais vous garder avec nous puisque nous on termine chaque jour l'émission par quelqu'un qui n'est absolument pas stressé, Anne Cazobo.
La vie devant soi sur Europe 1.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et on retrouve Anne Cazobon. Donc maintenant, on a pris le pli. Je vais y arriver.
Sans le payer, j'espère.
Le vendredi, c'est bafouillé. Le mercredi, c'est les enfants. Et le vendredi, c'est le couple.
Mais oui, je vous parle d'amour, namasté. L'amour sous toutes ses formes, dans toutes ses expressions. Le couple, certes, mais aussi ceux qui y étaient en couple et qui aimeraient bien peut-être y retourner avec un partenaire différent, d'autres intentions, d'autres projets. J'ai nommé les célibataires. Et a priori, si l'on suit les chiffres, les 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui craquent, ils sont nombreux. C'est à eux que je voudrais m'adresser donc aujourd'hui pour se mettre en route vers cette future rencontre, parce qu'il est temps, temps de se reprendre en main peut-être, mais avant tout de prendre soin de soi, même si ça peut passer par un peu de sport, une petite coupe de cheveux, une garde-robe renouvelée. Sauf qu'au fond, on le sait bien, vous et moi, l'amour, ça passe par autre chose, par d'autres biais. C'est absolument irrationnel. Bah si, regardez autour de vous, elles sont nombreuses, toutes ces femmes, ils sont nombreux, tous ces hommes pour lesquels vous vous demandez pourquoi ils ne sont pas en couple. C'est vrai ça. Allez regarder, on se demande où ça coince. Qu'est-ce qui freine?
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux.
Bon, ça c'est le postulat de départ, mais et vous dans tout ça? En développement personnel, vous commencez à me connaître, on fait très attention à la manière dont on parle de soi, aux mots que l'on emploie pour se présenter, parce que plus on aime toutes les parties de soi, plus on a de chances d'aller vers une union durable. Plutôt que de rejeter le partenaire à la première zone d'ombre que nous avions cachée, qu'il ou elle elle s'empressera d'éclairer et de nous mettre sous le nez. Oui, plus on aime toutes nos parts d'ombre intérieure, plus on se montre prêt à accueillir l'autre, à faire couple avec lui. Plus on accueille la peureuse en soi, le jaloux en soi, plus on acceptera cette part d'humanité chez l'autre en se montrant plein de compassion à son égard. Alors attention aux mots que l'on utilise. Par exemple, et d'expérience, si vous traversez une période de chômage, courage. Ce n'est pas du tout la même chose si, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous répondez « Je suis dans une période de recherche d'emploi dans le secteur de l'agroalimentaire », plutôt que de lâcher un « Oh bah, je suis chômeur ». Oui, ce qui tente à quand même vous enfermer et à laisser entendre que vous vous définissez ainsi, que vous êtes chômeur et rien que ça. C'est pas du tout la même chose pour vous et donc pour les autres. Mais d'abord pour vous, et ça dit aussi beaucoup de vous. De la même manière, pour revenir au couple, je vous invite à regarder comment vous parlez de votre situation personnelle. Vous savez bien, à cette soirée, à ce mariage, à ce pot entre collègues, où d'un coup, l'air de rien, on vous demande « Et vous avez des enfants? Avec qui êtes-vous venu? Vous êtes marié ?» Et alors là, vous lâchez un « Oh, toujours pas », enchaîné sur un éclat de rire gêné, ou un « Oh non merci, ça va, j'ai déjà donné », ou un « J'ai longtemps fait la collection des pires pervers de la Terre », ou « Oh, tu sais, je suis abonnée aux dépressives », ou encore « Ah ben moi, je suis en CDI, en célibat à durée indéterminée ». Et si à partir de maintenant, plutôt que de se laisser définir par des codes, des conventions sociales, la norme, le rang, et si plutôt que de dire « Je suis célibataire », on choisissait de répondre « Je suis libre ». Vous sentez comme à l'intérieur, et donc à l'extérieur, ça résonne pas du tout de la même manière. Oui, quelqu'un qui dit et qui répète à qui veut l'entendre que dans sa situation personnelle, il est
libre dans sa tête.
Eh ben, ça ouvre grand, très très grand, le champ des possibles.
Je vous sens très libre ce week-end, Anne. Merci, bien sûr, on vous retrouve lundi. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent week-end également. Et on se retrouvera lundi avec une toute autre thématique. On va apprendre ensemble à muscler notre mémoire pour éviter qu'elle ne nous fasse défaut. Et puis, nous recevrons ensemble Sébastien Martinez, le champion de France de mémoire. Ben oui, il y a un championnat comme ça. Chaque année, il se mesure. C'est lui qui a remporté celui de l'année dernière. Il nous dira tout sur ce championnat et surtout sur toutes les techniques assez faciles à reproduire qu'il a mis en place pour booster sa mémoire. Bref, je vous dis tout ça lundi. N'oubliez pas votre nouveau rendez-vous 17h pour Y'a pas péno, l'émission foot d'Europe 1 avec Thomas Thoroude et bien sûr toute son équipe. Mais tout de suite, c'est Christophe Ondelat que l'on retrouve. Bonjour Christophe.
Bonjour Isabelle. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire vraiment exceptionnelle. Vous allez me dire, je dis ça à chaque fois, mais celle-là est exceptionnelle. C'est une affaire criminelle qui se déroule en 1928 à Limoges. À l'époque, elle a fait la une de l'actualité pendant des semaines et des semaines. C'est l'affaire Barato. Et les gens étaient partagés. Barato est-il coupable ou Barato est-il innocent? Vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion.
On vous a jamais dit, Christophe, que vous aviez une belle voix.
Comme vous. Comme vous.
Vous écoutez Europe 1, il est 16h.